Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Recrute barman, serveur, cuisinier. Les offres d'emploi fleurissent sur les vitrines paloises. Dans cette bodega, le gérant doit renouveler la moitié de son effectif. Cet été, 3 de ses 6 employés partent en reconversion.
À Pau, à Paris, à Brest ou à Lille, c'est la même rengaine. Où sont passés les employés, serveurs, cuisiniers, réceptionnistes ? Certains professionnels se retrouvent parfois à refuser du monde faute de salariés pour accueillir correctement le public. Un comble après des mois de frustration liés à la pandémie de Covid, car le coronavirus a laissé des traces dans l'hôtellerie et la restauration, un secteur frappé par une pénurie de bras, en cuisine comme en salle. Un cauchemar.
Catastrophe. Vous n'êtes pas pressé au moins ? Non ? Ouais, mais réchauffez-vous, hein, je vous dis, tenez-vous chaud. Hein.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment le secteur de l'hôtellerie-restauration peut s'en sortir entre Covid long et pénurie de personnel.
Je sais pas ce que je lui ai fait à la serveuse, mais elle lui tire une gueule. Elle a pas envie de me sourire. J'ai peut-être une tête qui lui revient pas.
Pauvre Philippe Etchebest, en allant au restaurant, il pourrait bien la regretter, la serveuse. Elle est sans doute partie avec la crise du Covid et n'est pas revenue. Ils sont des dizaines de milliers en France à ne pas avoir retrouvé le chemin des restaurants et des hôtels. Et je ne parle pas des consommateurs qui, eux, n'avaient qu'une envie, se mettre les pieds sous la table et bien manger.
Je voudrais un melon au porto, après je voudrais un œuf en gelée, un maquereau aux aromates, un foie gras en brioche, un écrevisse à la nage, et puis alors, je voudrais aussi un rouge grillé, et après je prendrais un poulet de Bresse à la française, voilà. Et une tête de... une pièce de charolais plutôt. Une pièce de charolais d'abord et puis une tête de veau après, voilà. Et dites-moi, la choucroute elle est comment, chou ?
Très très bien, monsieur, oui.
Alors vous m'en donnez un petit peu, c'est juste pour goûter, hein ?
Bien, monsieur.
Merci. Si vous les perdez vite quand même, je suis assez pressé.
Entendu.
Bonjour Christophe Paliers.
Pierre, bonjour.
Vous êtes journaliste au service entreprise des Échos. Vous suivez notamment le secteur de l'hôtellerie. D'abord Christophe, est-ce que l'on peut tirer un bilan du secteur ? Dans quel état se trouvent les hôtels-restaurants après près de 2 années de crise liée au Covid ?
On peut dire que ça va un peu mieux, voire bien mieux selon les établissements, les marchés, les clientèles. Mais ce qui est sûr, c'est que la crise a été terrible. L'activité s'est effondrée du fait du confinement, des restrictions. Mais le secteur n'a pas implosé. Il faut quand même revenir sur 2020 qui a été une année cataclysmique. Si on prend par exemple l'hôtellerie, il faut remonter au choc pétrolier des années 70 pour retrouver une telle chute d'activité de revenus. Mais effectivement, la tendance est à l'amélioration depuis quelques mois. Comme l'an dernier d'ailleurs, on a eu une saison estivale 2021 porteuse pour l'ensemble des territoires, à l'exception quand même de Paris et quelques grandes villes. Dans la restauration, pareil, l'heure est à l'amélioration. On l'avait vu dès la fin du dernier confinement. Après, ça avait été un peu contrecarré par la mise en place du pass sanitaire, mais on voit quand même que ça va mieux depuis la rentrée parce que y a un peu de clientèle d'affaires qui est de retour quand même. Et puis globalement, la consommation se tient bien. Mais quand même, il faut dire qu'il y a encore des contrastes selon les marchés et les établissements.
On parle beaucoup de pénurie dans un contexte de reprise économique forte. Pénurie de biens, de matériaux, mais il y a aussi des pénuries de main-d'œuvre. En préparant ce sujet, je suis retombé sur un reportage de France 3 datant de 2018. Un restaurant a dû fermer quelques jours, faute de personnel.
7 de ses employés ont démissionné. Et quand il a fait une recherche avec Pôle emploi, il n'a trouvé personne. Il trouve ça incompréhensible.
Dans un environnement de 15 kilomètres, il y a 44 cuisiniers inscrits au chômage. et 99 serveurs, nous n'avons eu aucune réponse malgré l'envoi par SMS, par mail du Pôle emploi.
Alors le phénomène, il n'est pas nouveau, mais c'est clair qu'il a pris une ampleur sans précédent avec la crise sanitaire parce qu'il y a des salariés qui sont partis dans la nature. On a beaucoup parlé des embauches massives, des plateformes de logistique, on a parlé de l'effet Amazon, tout ça est vrai. Puis il y a aussi des reconversions comme agent immobilier. Et donc, on a une pénurie à date qui est quand même sans précédent. On parle de 150 000 à 200 000 personnes qui manqueraient aujourd'hui au secteur. Mais après, il faudra voir dans quelle mesure, et là, c'est tout l'enjeu au fond de la négociation qui s'ouvrira probablement en 2022, même si on en parle déjà, sur les conditions de travail, parce qu'il faut absolument que le secteur regagne en attractivité, parce qu'il a beaucoup perdu. Il a été mis en concurrence d'une certaine façon par des métiers qui étaient un peu mis de côté par des salariés qui ne se posaient pas la question, mais l'arrêt prolongé de l'activité a fait que certains ont découvert d'autres mondes.
Remettre de l'attractivité dans les métiers en tension. Pour en parler, j'ai invité aussi dans la story Clotilde Briard du service entreprise. Clotilde, vous suivez notamment le secteur de la restauration. Christophe parlait de ces dizaines de milliers de postes vacants. Les confinements sont terminés, du moins on l'espère. Les gens retournent au resto, les hôtels sont complets pendant les vacances. Pourquoi ces postes restent-ils disponibles ?
Plusieurs phénomènes se cumulent. Tout d'abord, ce manque de personnel, ça ne touche pas seulement l'hôtellerie et la restauration. Il y a de nombreux secteurs qui sont concernés. L'industrie agroalimentaire, par exemple, elle a énormément de difficultés à recruter. Donc, les postes ne manquent pas d'une manière générale. Et ceux proposés par l'hôtellerie-restauration entrent en concurrence avec tout ce qui est proposé par ailleurs dans d'autres univers qui sont parfois mieux rémunérés ou avec moins de contraintes à la clé. Or, c'était déjà en plus avant l'irruption du Covid, un secteur qui était structurellement en déficit de salariés, qui était toujours en recrutement permanent avec des départs et des arrivées. Et donc, ça n'a fait que cumuler les choses après de longs mois d'arrêt, notamment pour la restauration. Bon, l'hôtellerie, c'était au ralenti. La restauration était quand même très, très fermée malgré la vente à emporter et la livraison. Les professionnels qui ont été mis au chômage partiel ont eu le temps de réfléchir un peu, et beaucoup sont quand même revenus une fois cette période compliquée passée, mais d'autres ont préféré opter pour d'autres métiers qui leur tendaient les bras. Et c'est un effet du fameux monde d'après dont on avait beaucoup parlé à l'issue du premier confinement.
Ce personnel qui a ses week-ends maintenant depuis 7 mois, qui a goûté à ses week-ends, qui travaille que la semaine, ont pris ce rythme de vie et préfèrent ce rythme de vie à un salaire sûrement équivalent, peut-être un peu moindre.
On vient d'entendre Fabien, gérant d'un resto à Pau, interrogé par France 3 Nouvelle-Aquitaine. On le comprend, ce n'est pas qu'une question de salaire, c'est aussi une question de pénibilité du travail, de rythme du travail.
Alors, c'est tout un ensemble. La question des salaires, de la rémunération des heures supplémentaires reste bien sûr cruciale. Mais il s'agit de métiers qui impliquent des rythmes de travail et donc de vie par conséquent, qui sont souvent différents des autres. Dans la restauration, on est en pleine activité le soir, le week-end, à des moments où la majeure partie des gens qu'on connaît sont au repos. Il y a aussi la question des coupures qui sont entre le service du déjeuner et celui du dîner, un temps d'arrêt. Pour certains, ça peut être bien, pour d'autres, pas vraiment. Et selon les tailles, la localisation des établissements, un certain nombre essayent d'apporter des réponses pour donner une meilleure qualité de vie aux gens qui travaillent chez eux. Alors pour certains, ça passe par des plages horaires larges qui permettent de créer des équipes du midi ou du soir et d'éviter cette fameuse coupure, mais encore faut-il avoir une taille suffisante pour le faire. D'autres imaginent de nouveaux rythmes pour permettre au personnel d'avoir plus de jours de congé de suite ou de finir plus tôt le soir. Dans des grandes métropoles comme Paris, on voit de plus en plus d'établissements, notamment gastronomiques, fermés samedi et dimanche. Bon, le dimanche, c'était assez fréquent dans les grandes villes, mais le samedi, pas forcément. On en voit un petit peu plus. Ça permet de préserver ce week-end. Et les chefs eux-mêmes, ils ont pris goût d'ailleurs à l'idée d'avoir plus de temps libre avec leur famille. Quand on parle avec eux, on s'en rend bien compte. Mais il faut aussi économiquement avoir suffisamment de réservations le midi et le soir en semaine pour que ce soit viable comme formule.
Les négociations de branche ont démarré le 18 novembre entre les salariés et les patrons. Il y a du pain sur la planche, Clotilde ?
Entamer ces négociations au sein de la branche, c'était devenu vital, parce que la dernière grille de salaire datait de 2018. En 2019, elle n'avait pas été acceptée par les syndicats de salariés, donc on était resté sur une grille qui maintenant a 3 ans. Et le Covid a fait de 2020 une année blanche. Les choses étaient en partie à l'arrêt, donc il n'y a évidemment pas eu de négociation. Et entre-temps, la grille est devenue obsolète. La hausse du SMIC de 2,2% en octobre dernier a rendu tous les premiers niveaux de rémunération totalement caduques. Alors bien sûr, les fiches de paye sont adaptées, elles affichent évidemment le nouveau montant correspondant au SMIC. Mais il y avait quand même urgence à changer cette grille. Pour le moment, les organisations patronales se focalisent d'ailleurs sur ce sujet. Ils ont proposé donc le 18 novembre une moyenne d'augmentation de 10,5%, mais c'est une moyenne parce que les hausses peuvent être très différentes selon les échelons. Et ces organisations patronales attendent 2022 pour élargir les négociations à d'autres sujets. Mais lors de la première rencontre du 18 novembre, les syndicats qui ont estimé que le compte n'y était pas ont aussi voulu mettre sur la table d'autres sujets comme l'intéressement.
Oui, c'est vrai que l'intéressement, c'est un point important, mais il y a une question aussi qui semble très importante, au cœur aussi des négociations, surtout du point de vue des salariés d'ailleurs, c'est la question du 13e mois.
Oui, c'est en effet du côté des salariés que c'est le plus mis en avant. Alors début octobre, lors d'une interview, le négociateur de l'UMIAGE, qui est la première organisation patronale, avait évoqué cette fameuse question du 13e mois, en disant peut-être qu'elle allait être abordée. Mais les autres représentants des entreprises ont vite fait savoir qu'ils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde, considérant que les entreprises n'auraient pas pu le supporter parce qu'en effet, c'est un coût supplémentaire. Donc le sujet n'était pas au menu officiel des discussions qui viennent de démarrer, mais les syndicats en ont quand même largement parlé et c'est sûr qu'il reviendra à nouveau sur la table.
Il faut des augmentations de salaire dans les secteurs où il y a des tensions sur le recrutement. J'en ai parlé encore hier avec mes amis de la restauration, l'hôtellerie, c'est un secteur qui a été bien protégé pendant la crise, qui est essentiel à notre culture, je dirais essentiel à notre bonheur commun. On voit bien qu'il a du mal à recruter. Il faut rendre ces métiers plus attractifs. On ne peut pas se retrouver avec des dizaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus dans les restaurants, dans les bars, dans les hôtels.
On vient d'entendre le ministre de l'économie Bruno Le Maire sur l'antenne de Sud Radio le 17 novembre. Il faut augmenter les salaires. Le gouvernement met la pression sur un secteur qui a bénéficié de nombreuses aides de l'État, même si c'est sous forme de prêts garantis qu'il faudra rembourser. Il y a eu les mesures de chômage partiel aussi qui ont fait du bien aux finances. Christophe Palier, c'est une pression supplémentaire pour ces professionnels ?
Ce qui est sûr, c'est que la problématique du pouvoir d'achat est un enjeu pour le gouvernement. On est rentré en pré-campagne présidentielle, c'est une évidence. Et donc, cette négociation salariale qui vient de s'ouvrir dans l'hôtellerie-restauration a donc une dimension politique forte. Le patronat a la pression, les syndicats ont conscience d'un enjeu politique et donc ils ont une carte à jouer là-dessus. Après, les organisations patronales devront tenir compte de leurs adhérents parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément les marges de manœuvre. La question du remboursement des PGE inquiète beaucoup et là, je pense effectivement aux chefs ou aux grands groupes, puisque la taille du PGE étant proportionnelle au chiffre d'affaires, plus il est gros, plus il est compliqué à gérer. Donc, il y a quand même une discussion relativement complexe à mener.
La nécessité de revaloriser les métiers fait consensus, c'est ce que vous écrivez dans Les Échos, Clotilde. J'ai entendu l'autre matin sur France Info un restaurateur dire que ses employés n'étaient pas si mal payés, aucun n'est au SMIC. Il répondait à cette incantation du locataire de Bercy. Quelle est la réalité des salaires dans le secteur ?
Alors, la réalité des salaires est par définition très contrastée, comme elle peut l'être ailleurs. Les montants de la grille pour l'an prochain, donc, qui sont en train d'être négociés, ne correspondent qu'à des seuils minimaux. Donc, chaque entreprise peut, évidemment, et très souvent, on adapte. On est sur une base commune. Donc, sur cette base commune, les sommes brutes qui sont proposées pour le moment, ça s'échelonne entre 10,80 € de l'heure. Donc, le SMIC actuellement est à 10,48, mais ça devrait à nouveau augmenter en janvier à cause de l'inflation. Et donc, entre 10,80 et 24 € de l'heure. Mais à chaque entreprise de fixer ses rémunérations. Ce dont on est sûr, c'est que les plus basses tranches de salaire concernent quand même plus de la moitié des salariés. Selon le baromètre du site talent.com, qu'il a réalisé à partir de 2500 offres d'emploi dans la restauration, on n'est que sur la restauration, hein, pas sur l'hôtellerie-restauration, le salaire mensuel brut moyen est de 1665 euros, et le salaire médian de 1830 euros. Les plongeurs sont à 1665, donc vraiment dans ce salaire brut moyen, quand il y a des offres de poste pour les sommeliers qui sont à 2163 euros. C'est un exemple, un baromètre, ce n'est pas un salaire général.
Et surtout qu'à ce salaire, il faut souvent ajouter les pourboires. Alors, selon la générosité effectivement des clients et selon le type de restauration, il n'y a pas forcément de pourboire dans la restauration collective ou dans la restauration rapide notamment. Le gouvernement a d'ailleurs fait un geste sur cette défiscalisation des pourboires, mais les professionnels attendent plus.
Alors bon, déjà, il y a cette défiscalisation des pourboires, elle a été plutôt bien accueillie aussi bien par les entreprises que par les salariés. C'est Emmanuel Macron qui, lors d'un salon professionnel en septembre, l'avait annoncé. Ça permet de faciliter les compléments de rémunération. Bon, c'est en plus en train actuellement de passer au Parlement dans le projet de budget. Et ça correspond au fait que le paiement se dématérialise de plus en plus, parce qu'en effet, les pourboires en liquide n'étaient pas forcément fiscalisés de façon très officielle. C'est sûr que quand ça passe par la carte bleue, il y avait un geste qui a été fait. Mais il y a aussi d'autres attentes qui sont, elles, plutôt du côté des patrons des hôtels et restaurants. Ils espéraient un report sur le remboursement des PGE. A priori, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a repoussé l'idée. Il s'interroge aussi sur les aides qui sont apportées aux plus bas salaires, qui ont tendance du coup à faire stagner un petit peu en bas, et espérerait peut-être potentiellement des aides pour les salaires un peu plus élevés, mais ça dépasse largement le cadre du secteur.
Les syndicats et patronats de l'hôtellerie-restauration ont prévu de se revoir mi-décembre, à quelques jours de Noël, une période faste pour le secteur. Christophe, comment est-ce que les professionnels répondent-ils? Comment est-ce qu'ils s'adaptent à ce manque de personnel au-delà de la question du salaire?
Alors, ce qu'il faut déjà rappeler, Pierrick, c'est que Noël, c'est une période importante, mais pas pour tous les restaurants. D'ailleurs, certains ferment assez traditionnellement en fin d'année parce que les gens sont en vacances, ils n'ont plus leur petite consommation locale, que ce soit du client professionnel, salarié ou de la clientèle plus loisir. Donc, c'est un sujet, mais pas forcément pour tout le monde. Ça dépend donc des positionnements et des marchés des uns et des autres. Après, par rapport à cette problématique de la pénurie, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse interrogation. On navigue un peu à vue. On ne sait pas comment vont évoluer les comportements. Est-ce qu'on aura des retours de salariés ou pas. Donc, il y a beaucoup d'interrogations. D'ailleurs, un patron d'un groupe de casinos que je ne citerai pas, parce que les casinos sont très concernés par cette période-là, me disait « on verra bien ». Donc, ça montre bien qu'il y a quand même une certaine interrogation. Il y a peut-être un levier qui m'a été évoqué par une source patronale, qui est celui des étudiants, d'autant que beaucoup ont perdu leur petit boulot avec la crise sanitaire. Donc, il y a peut-être un sujet. Donc, il y aura, ça me paraît évident, beaucoup d'extras de dernière minute. Après, il faut voir dans quelle mesure la qualité de service va suivre. Parce que si ce sont des gens du métier, évidemment, comme on dit, ça va le faire. Si ce sont des gens qui ne sont pas du métier, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, je dirais beaucoup d'interrogations, sachant qu'on a déjà vu depuis un certain nombre de mois, Pierre, qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont réduit leurs services faute de main-d'œuvre. Donc, ce n'est pas exclu que la question se pose aussi à Noël.
Il faut compter à peu près 4 minutes pour que le robot fasse la pizza. Avec une pizza toutes les 40 secondes. C'est l'un des gros points forts, c'est que le robot va être capable de faire simultanément plusieurs pizzas.
Avec Christophe, on parle aussi de robot pizzaïolo, 100% autonome, vous l'avez entendu. Le personnel reste quand même difficile à remplacer dans ces métiers.
Absolument. Alors, pour l'anecdote un peu personnelle, j'avais vu il y a quelques mois dans un quartier de la périphérie de Metz un distributeur de pizza et je me suis arrêté devant. Je me suis posé beaucoup de questions, je l'ai même pris en photo d'ailleurs pour tout vous dire. Et en réfléchissant, je me disais, mais qui peut accepter ça? Et je crois que ça ne peut pas enlever le plaisir de voir sa pizza préparée devant soi, cuite au four à bois, et dans un resto plutôt sympa. Et je crois que la restauration, ça relève de l'expérience, c'est au fond une forme d'art de vivre, et effectivement, le robot ne peut pas enlever ça. Mais après, ça me paraît évident qu'il y a des opérations, j'allais dire mécaniques, qui s'installent, des modes opératoires un peu plus industriels, mais on est dans une autre forme de consommation. Et quelque part, on a toujours plus une espèce de coexistence entre des modes de consommation différentes.
Oui, Christophe, on observe aussi un changement changements dans les pratiques, dans la consommation des clients. Beaucoup de Français ont pris l'habitude de commander, de se faire livrer. Il y a de plus en plus de dark kitchen, hein, ces énormes cuisines sans salle, sans table et donc sans personnel de salle. C'est une concurrence qui s'installe aussi pour les restaurants et une opportunité dans un contexte de pénurie de personnel.
C'est sûr que ces nouveaux modes de consommation qui se sont amplifiés avec la crise sanitaire peuvent interpeller. Après, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que la livraison a permis quand même à beaucoup de restaurateurs de faire face à la fermeture des établissements. Bon, c'était un point d'appui pour la restauration rapide, par exemple, de manière assez traditionnelle, si je puis dire, mais des restaurants plus classiques s'y sont mis. Donc, ça a quand même été une alternative. Et on voit bien quand même que ça devient, au fond, un levier d'activité qui s'installe. Et s'agissant des dark kitchens, effectivement, c'est interpellant parce qu'on se dit « mais la restauration sans restaurant, est-ce que ça tient ?» Certes, après, il faut voir la forme que prend cette restauration. Ça reste un phénomène encore très urbain. On peut dire que ça relève, comme la livraison, d'une certaine façon, d'une restauration très fonctionnelle. Je m'explique, on n'a pas le temps de faire à manger, on n'a pas envie de faire à manger, et puis finalement, c'est très simple, on commande, hop, on est livré. Mais je pense que ça s'installe, mais ce n'est pas non plus contradictoire avec la restauration classique, à savoir, on va au restaurant. Et là où il y a un sujet, c'est que cette restauration très fonctionnelle, elle oblige le restaurateur à être bien plus encore professionnel dans son plat, dans son expérience client. Et au fond, ça tire peut-être la restauration classique vers le haut. Parce qu'il y a vraiment une segmentation et il faut vraiment être encore meilleur qu'avant.
Est-ce que je peux avoir l'addition, s'il vous plaît ?
Les représentants des organisations patronales ont mis sur la table une nouvelle grille commune, donc avec une moyenne d'augmentation de 10,5%. Ce n'est pas rien. On verra ce que donneront les négociations. Mais je voudrais quand même poser la question d'un client. Est-ce que la note va devenir plus salée ?
Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour le client que vous êtes, c'est qu'elle a de grandes chances, en effet, d'augmenter en 2022. Alors, ce sera évidemment s'il y a de ces hausses de salaire ou des améliorations à venir des conditions de travail, ça c'est sûr. Mais il faut aussi prendre en compte tout un autre pan des augmentations qui frappent le secteur, qui sont les hausses des matières premières alimentaires, qui commencent à se faire quand même de plus en plus sensibles. Donc, j'ai bien peur que l'an prochain, les consommateurs aient à payer un peu plus, mais ce sera peut-être pas seulement, malheureusement, que dans l'hôtellerie et la restauration.
Sac, ça fait 110 par personne, voilà. On paye, on y va, hein, demain on se lève. Allez, Jean-Claude, tu me passes mon sac, il est sous ta chaise. Pardon Myriam, ça t'ennuie qu'on partage ? Ah oui, t'as pris qu'une salade, toi ?
Merci Clotilde Briard et Christophe Palliers de la rédaction des Échos. N'en laissez, c'est pour moi, ça me fait plaisir. La Story, le podcast des Échos, a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.